welcome, welcome. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Radiographie. Oncle Kincho, microphone, un grand plaisir pour moi d'être là, de vous savoir surtout, hein, avec vos, à côté de vos appareils radio, de vos GSM, en voiture. Je ne sais pas comment vous nous écoutez, mais en tout cas, je sais que vous êtes là à votre rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, 15h30, 16h30. Mais aujourd'hui, spécial anniversaire du CELTB, comme je l'avais annoncé dans les émissions passées. Aujourd'hui, nous allons être en direct ici du CELTB, de cet espace de la rue de l'Indépendance où il se passe vraiment une activité chouette ici avec beaucoup, beaucoup de choses. Nous aurons le programme. Nous serons en direct de 15h30 à 18h. Écoutez bien. 15h30 à 18h sur Radio Panique et sur Radio Public, www.radiopublic.be. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment l'ambiance en rue. Nous ne sommes pas en studio, nous ne sommes pas notre studio de Elsenhof, nous sommes bien dans la rue, oui, dans la rue, avec les CELTB qui nous invitent aujourd'hui à partager cette expérience ici, sans frontières ni barrières, sans trop de blabla. Je vais déjà saluer mes invités qui sont là. Bonjour Geert.
Bonjour Kinch.
Comment va Geert?
Très bien, très bien. C'est une belle journée, une belle fête.
Une belle fête, ça s'annonce bien. Le temps est bien, le temps est génial et les gens sont beaux. Hein? Tout le monde est souriant ici. Je suis avec Geert qui est coordinateur du CELTB et qui va nous expliquer un petit peu c'est quoi les CELTB, c'est quoi le rôle du CELTB, la naissance du CELTB. Mais avant d'arriver à Geert, j'ai ses collègues qui sont avec moi, j'ai Anne-Laure et j'ai Paula. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Kinch.
Comment va?
Bien bien, c'est la fête.
C'est la fête, hein? Une belle chemise, je vois.
Merci.
Et voilà, je suis avec Paula qui est en face de moi. Paula, ça va?
Oui, ça va très bien. Bonjour Kinch, ça
Bonjour.
Va très bien. Il y a du monde, on est content. C'est la fête aussi. Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, nous fêtons les 10 ans du CELTB. C'est bien ça. Et quelles sont les activités qui sont prévues ici? Je vois, il y a, comment on appelle ça, ballon gonflable pour les enfants.
Et un château gonflable.
Oui, voilà.
Alors, il y a un peu plein de choses. Il y a un espace pour les enfants, exactement. Il y a un château gonflable. Il y a des activités de bricolage, coloriage, avec des super chouettes animateurs et animatrices. Il y a une petite brocante aussi. Il y a l'association Remorquable qui est présente avec deux remorques thématiques, ludothèque et mécano-vélo.
Uh-huh.
Il y a des visites prévues aussi du bâtiment d'Indépendance parce qu'aujourd'hui on inaugure un bâtiment, le projet Indépendance Renfort avec 21 logements. Uh-huh. Et il y a aussi de quoi manger, il y a de la musique et une très chouette ambiance.
Chouette, chouette, chouette. Je ne suis pas seul, comme vous le savez, tout le samedi je suis avec Gérard Kranabassao, mon général. Comment va?
Oui, ça va, on est à Molenbeek et Molenbeek c'est chaud et c'est beau,
mm-hmm.
C'est grand et voilà quoi.
C'est grand, c'est beau, ici il fait terriblement
oui,
bien.
Oui, la journée, il fait très beau aujourd'hui, j'aime bien Molenbeek, j'aime bien quoi.
Voilà. Je sais que tu es Molenbeek, quoi. Comment tu te sens ici dans cette rue hein?
Ben, je me sens chez moi, hein. Molenbeek c'est Molenbeek, donc il n'y a rien à expliquer.
Molenbeek c'est Molenbeek, voilà. Chouette, voilà.
Oui, donc j'ai travaillé à Molenbeek, j'y ai habité, bon, j'y travaille encore d'ailleurs, bon, de temps en temps, mais voilà.
Chouette. Je signale à nos auditeurs, vous ne voyez pas les images, hein, nous sommes en radio, mais nous sommes en studio vélo cargo. Nous cherchons d'ailleurs un nom pour ce vélo cargo. Nous sommes dans la rue, notre studio est aménagé sur ce vélo, magnifique vélo cargo, où nous accueillons Geert, voilà, qui nous invite ici, partager ces moments, ces 10 ans de CELTB. Geert, tu peux nous expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, les Bruxellois, les Bruxelloises qui ne connaissent pas les CELTB, c'est quoi les CELTB?
Avant tout, donc le nom complet c'est Community Land Trust Bruxelles, donc c'est ça que veut dire CELTB. Community Land Trust c'est une association dont le but c'est de créer du logement pour des personnes à faible revenu et du logement qui est accessible et qui reste accessible pour toujours. Ça, c'est une partie importante. Donc, on vend des logements à petit prix, un prix raisonnable, que même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent acheter. De l'autre côté, un autre élément important dans notre travail, c'est ça s'appelle Community Land Trust, donc c'est le travail communautaire. Les habitants chez nous jouent un rôle très important dans tout ce qu'on fait. Ils sont membres, ils sont dans notre conseil d'administration, mais ils sont aussi impliqués dans le design des projets. Ils sont responsables pour l'entretien, pour la gestion, etc. Donc, à côté de ça, on organise aussi plein d'autres activités avec notre communauté. Donc voilà, on fait du logement et on fait aussi communauté. Ça, c'est la mission la plus importante. Et à côté de ça, nous jouons aussi un rôle important dans la promotion de ce modèle. C'est quelque chose que nous avons découvert aux États-Unis il y a plus ou moins 12 ans. Et maintenant, on se sent responsable aussi pour expliquer autour de nous ce que c'est.
Moi, je retiens une notion, faire communauté autour du logement. Je veux savoir, Guir, sûrement, je prends un peu parti des gens qui se posent sûrement des questions, hein, là, maintenant, ils nous écoutent. Quel a été le besoin ou le motif qui vous a poussé à mettre en place les CLTB?
Mais on était tous des gens actifs dans le mouvement pour le droit au logement à Bruxelles. Et comme tu sais, depuis presque 20 ans, à Bruxelles, les prix de logement sont en train de monter. Et ça devient de plus en plus difficile pour des gens à se loger dignement. On est dans une ville aussi où il y a très peu de logements sociaux. Et à un moment, on se disait, il faut peut-être non seulement protester dans les rues pour demander plus de logements sociaux, mais on peut peut-être aussi réfléchir à des solutions nous-mêmes. Et donc, on a cherché un modèle qui nous permettait de faire du logement d'une façon participative et aussi de permettre à des gens de devenir propriétaires. Et donc, c'est là que on a décidé avec un groupe d'une vingtaine d'associations de commencer à militer auprès de la région bruxelloise pour nous donner les moyens de commencer avec ça. Et donc il y a 10 ans, on a eu pour la première fois un subside qui nous a permis d'acheter un terrain sur lequel on a construit nos premiers logements. Et entre-temps, aujourd'hui, on inaugure notre 5e projet. On est à 104 logements pour l'instant, ce qui n'est toujours pas beaucoup. Mais bon, il y a d'autres projets en préparation. Et on espère aussi que, en montrant la qualité de ce qu'on fait et comment les gens sont épanouis dans nos logements, que ça va nous permettre de pouvoir davantage construire des logements, faire des nouveaux projets partout à Bruxelles.
Il y a 10 ans, vous avez lancé ce projet à Bruxelles. Quelle a été la réaction des Bruxellois, puisque c'était tout nouveau, j'imagine. Les gens n'étaient pas habitués, en tout cas à Bruxelles, n'étaient pas habitués à ces genres de propositions pour accéder à un logement. Puisque je me souviens déjà à l'époque, moi j'avais appris ça, et on disait même que les gens qui sont au CPAS, hein, utilisons les termes les plus basiques, au CPAS pouvait acheter le logement. Comment a été la réaction de Bruxellois en apprenant cette proposition?
Mais les gens qui étaient à la recherche d'un logement étaient très enthousiastes. Hein, donc la preuve en est que pour l'instant, on a plus que 1000 membres. Membres, ça veut dire des gens qui sont candidats pour acheter un logement. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande. C'est vrai que notre système, je ne l'ai pas encore expliqué, mais c'est un peu particulier. Hein, les gens qui achètent un logement chez nous, ils sont propriétaires du bâtiment, mais pas du sol. Le sol, on considère justement que c'est un bien commun. Et c'est vrai que pour les Belges, mais pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de particulier. Ça demande un peu de temps pour comprendre. Mais une fois que les gens ont compris, la plupart des personnes voient, d'abord, évidemment, la possibilité d'acheter un logement à un prix accessible, mais aussi tous les autres plus-values de notre système. Ça parle à beaucoup de gens.
Peut-être on parlera plus tard avec Anne-Laure, tout ce qui est communautaire, tout ça, comment s'organiser. Oui. En 10 ans, vous arrivez quand même à gérer le flux de demandes, puisque il y a un problème réel à Bruxelles, un problème de logement qui est connu. Comment vous faites pour gérer un peu le flux? Est-ce que vous travaillez avec des partenaires, des associations partenaires? Comment s'est fait la sélection de membres, tout ça?
Mais en fait, maintenant, tout le monde qui est intéressé et qui est dans les conditions, et c'est des conditions plus ou moins les mêmes que pour le logement social, tout le monde peut s'inscrire. On ne va pas faire de sélection. Quand des gens sont intéressés, ils peuvent s'inscrire pour une réunion d'information où on explique tout, comment ça fonctionne, quelles sont les conditions, etc. Et si après les gens sont intéressés, ils peuvent s'inscrire. C'est vrai qu'à un certain moment, il va falloir se poser la question, est-ce que ça a du sens d'avoir 1000 ou bientôt peut-être 2000 personnes sur la liste d'attente? Mais la réponse là, c'est que notre volonté, c'est de construire plus de logements pour pouvoir répondre à cette demande. Et donc, avec cette fête, cette célébration, c'est aussi un peu un cri pour dire, pour montrer que ce qu'on fait est une bonne solution, que c'est une réponse à une demande et que si on a plus de moyens, il y a encore moyen de faire plus de logements.
J'espère que vous aurez les moyens et que vous aurez plus de moyens pour faire ce travail. En 10 ans, 5 logements et tout ça, quels sont les délais d'attente en fait?
Mais c'est difficile à dire parce que ça dépend aussi en grande partie du type de logement en fait. Pour les logements les plus petits, donc les studios ou les appartements, une chambre, ça, les attentes sont raisonnables, je dirais. Pour des appartements 3 ou 4 chambres qui sont le plus demandés, malheureusement, l'attente peut... C'est plusieurs années en tout cas.
En tout cas, Geert, nous te remercions pour les éclaircissements apportés. J'espère que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont bien compris l'origine du CLTB, la fonction que cette organisation, cette SBL, remplit ici à Bruxelles. Et nous ne pouvons que le féliciter pour le travail fait en tout cas.
Merci.
Ok, mais si tu veux, tu peux encore rester avec nous ou bien tu peux revenir, il n'y a pas de souci.
Je reste.
Ok, chouette, ça roule. Voilà, nous continuons cette émission, chers auditeurs et auditrices de Radio Public et de Radio Panique. Vous êtes bien branchés sur le 105.4 FM. Vous êtes en direct sur Bruxelles, voilà. Nous continuons cette émission. Évidemment, ici, Geert a parlé de faire communauté autour du logement. Nous avons sa collègue Anne-Laure qui s'est... Voilà, avec laquelle nous allons creuser la question de la communauté, faire communauté autour du logement. En attendant, nous allons avoir Berlin, comme ça, oui, Paula.
Oui, alors aujourd'hui aussi, c'est le CLT World Day, comme Geert l'a dit. En fait, le CLT, c'est un mouvement qui existe partout dans le monde. Et on a une invitée internationale qui va qui va communiquer depuis Berlin. Parce qu'il y a aussi des événements qui se passent à Berlin, du coup on va l'appeler tantôt pour connaître un peu plus ce qui se passe à Berlin et comment est-ce qu'ils sont en train de fêter cette journée international du CLT.
Oh, chouette, voilà. C'est une, c'est que nous ne l'avons pas mentionné ici au début. Ça ne s'efface pas que à Bruxelles. Ça se passe dans le monde. C'est une journée internationale. Et voilà. Nous allons, je ne sais pas si elle est déjà prête parce qu'elle va pouvoir nous contacter de Berlin. Mais entre-temps, je sais ce que je disais avec Anne-Laure, nous allons un peu parler comment faire communauté autour des logements. Ça se passe comment?
Ah, c'est une bonne question. En général, au Community Land Trust, on a des projets comme celui que vous voyez ici, qui sont quand même des gros projets où il y a potentiellement une vingtaine de familles qui habitent dans le même centre, enfin dans le même bâtiment. Et mais l'idée, c'est déjà que ces 20 familles puissent se connaître avant d'habiter dans le projet et qu'ensemble, elles décident de ce qu'elles ont envie de faire ensemble. Donc, on essaye aussi d'avoir soit un jardin partagé, soit un petit espace qu'elles peuvent partager. Mais ces espaces collectifs, il faut les faire vivre. Et donc, c'est les familles elles-mêmes qui décident ce qu'elles ont envie d'en faire, comment elles ont envie d'aménager, si elles ont envie de se réunir souvent, pas trop souvent, pour faire quoi, etc. Donc, autour des projets, je dirais, la communauté CLT, c'est d'abord autour des projets des bâtiments, donc faire vivre le bâtiment avec les voisins. Mais c'est pas que ça, C'est aussi faire vivre la communauté, tous les membres qui sont inscrits, dont Gert parlait. On a quand même pour le moment à peu près 1000 membres inscrits. Ben, on propose aussi des activités ou des choses qui ont du sens pour les 1000 personnes. Je prends juste un exemple qui marche vraiment bien depuis maintenant 2-3 ans. C'est un projet qu'on appelle Roue Libre, pour apprendre à rouler à vélo. Et donc c'est un projet qu'on propose à tous les membres. Alors bien sûr, il y a des habitants des projets, mais il y a aussi des gens qui n'habitent pas encore, qui rêvent d'habiter un jour dans nos projets. Du coup, ça fait des liens entre ceux qui habitent déjà et ceux qui vont bientôt habiter. Et ces gens se voient tous les samedis matins, ici pas loin, ils apprennent à rouler à vélo. Et d'année en année, bah, certains qui ont appris il y a maintenant 2-3 ans deviennent les coachs pour ceux qui sont en train d'apprendre maintenant. Et donc évidemment, tout ça, ça fait aussi d'autres liens, d'autres types d'activités, d'autres manières de se rencontrer, pas seulement autour du logement, mais de manière plus générale autour de faire la ville avec plusieurs thématiques différentes.
Je peux savoir, c'est qui les noms, s'il vous plaît?
Anne-Laure.
Anne-Laure, c'est quoi les profils des gens qui peuvent travailler au CTLB? Est-ce qu'il y a un profil? Qu'est-ce que je dois faire si moi je vais travailler au CTLB?
Une équipe d'une quinzaine de personnes. Oui. Alors, quelques architectes, 3-4 architectes, et puis des professions très différentes, sociologues, travailleurs sociaux, des gens qui sont plutôt dans l'administration, juristes, financiers, comptables, tout ce genre de professions-là.
Voilà, donc il ne faut pas seulement habiter Molenbeek, on vient de partout pour travailler au CTLB.
Oui, bien sûr. Alors, de partout, donc c'est bruxellois. Hein. Donc, pour le moment, on s'adresse vraiment à la région bruxelloise. Et nos projets de logement ne sont pas que à Molenbeek, on en a aussi à Anderlecht, à Forêt. Et on essaye d'en avoir un peu partout dans la région.
Alors, on y est. Pourquoi seulement 10 ans? Pourquoi seulement fêter les 10 ans?
Comment ça se fait qu'on n'est pas né plus tôt?
Oui.
Ah, bonne question aussi. Mais il a fallu. Donc, comme Gert expliquait, hein, c'est un projet qui est né suite à plein de constats de crise du logement, de difficulté de se loger pour plein de familles. Et c'est peu à peu que ce modèle a été découvert. Donc, c'est un modèle qui vraiment existait déjà depuis quelques années, quelques dizaines d'années aux États-Unis. Mais il a fallu le découvrir, il a fallu rencontrer les gens, trouver la subtilité du modèle au point de vue juridique. C'était pas non plus évident de le développer ici. Donc, voilà, il a fallu prendre le temps de développer le modèle pour qu'il arrive ici, quoi.
Alors, 10 ans, vous êtes dit, oui, 10 ans, vous aviez chimie. Pendant 10 ans. Mais qu'est-ce qui a été plus difficile pendant ces 10 ans?
C'est pas la question, tu vois. J'ai pas saisi.
Quelles sont les difficultés auxquelles ils se sont confrontés pendant ces 10 ans? Les difficultés majeures.
Quoi. Au niveau de faire communauté. Ouais.
Au niveau de faire communauté ou au niveau du Community Land Trust?
Vraiment, oui.
Au niveau de faire communauté, ben, je pourrais prendre l'exemple des deux premiers projets pilotes. Ah, donc, on a lancé les premiers projets pilotes il y a 7 ans. Enfin, en tout cas, ils ont pris plutôt 7 ans pour se développer entre le jour où on a dit aux premières familles, ben, on essaie de développer un projet avec vous et le jour où ces familles ont pu emménager dans le logement. Il y a eu à peu près 7 ans. C'est très long quand même, hein,
oui,
quand on est dans des projets de logement et surtout si on est dans des besoins de déménager, c'est vraiment long. Et alors, du coup, faire communauté sur un temps si long, quand en plus on ne sait pas, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça prenne autant de temps. Et ça, c'est les aléas, soit un permis d'urbanisme qui prend beaucoup de temps, soit un problème de chantier qui prend beaucoup de temps. Et donc, voilà, chaque famille doit un peu se réadapter au calendrier. Et là, on peut être face à un certain épuisement du groupe, des familles, des travailleurs, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut soigner pour que les choses se passent au mieux. Malgré tous
voilà.
Ces problèmes-là.
Et à part le projet vélo, est-ce que vous avez d'autres propositions ou d'autres projets pour qui mettent de gens ensemble? J'ai appris qu'il y a des écoles des devoirs.
Oui, alors dans les projets habités, on en a deux qui font du soutien scolaire. Un qui se trouve justement à Molenbeek, un autre qui se trouve dans la commune de Forêt. Et là, c'est les habitants qui ont demandé, quoi, qui souhaitaient que certains enfants soient accompagnés pour faire leurs devoirs et qui sont réunis. Les habitants sont réunis soit pour essayer de trouver des bénévoles dans le quartier qui pouvaient les aider, soit des membres du CLT dont plusieurs sont présents aujourd'hui dans la rue qui les aident aussi. Donc chaque structure trouve un peu comme elle peut des adultes qui sont responsables de ces activités-là.
Mmh.
Et un autre gros projet aussi qui a lieu dans deux des bâtiments qui ont décidé tout à fait eux-mêmes de le faire. En tout cas, c'est pas les employés du CLT qui ont lancé ces initiatives-là, c'est de la récupération d'invendus alimentaires.
Mmh.
Donc ils s'organisent avec des magasins. magasins bio qui mettent à disposition une fois par semaine des stocks d'aliments qui n'ont pas été vendus. Les habitants les récupèrent, les dispatchent entre eux et un des projets fait de la cuisine ensemble les mercredis et mange ensemble ou partage les repas ensemble après quoi.
Vraiment. Une dernière question en tout cas pour passer à Sabine qui est en Allemagne qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Un nouveau membre qui arrive au CLTB, et c'est automatique qu'ils prennent ou bien qu'elles prennent part aux activités communautaires, tout ça, c'est obligatoire, c'est automatique ou bien on a le choix de participer ou pas?
Voilà, c'est ça. Vous avez le choix, tout à fait le choix. C'est pas du tout obligatoire. Par contre, dans le formulaire d'inscription, on demande aux gens s'ils ont envie d'être bénévoles, de porter un projet. Donc, c'est fortement encouragé, mais pas obligatoire. Et puis, il y a toutes sortes d'activités qu'on va proposer de manière régulière aux membres. Je pense à des activités autour de l'épargne pour épargner pour arriver à devenir propriétaire, mais aussi à des assemblées générales qui sont des moments très festifs et où chaque année on essaye de faire en sorte qu'il y ait plein de membres qui soient là.
Alors on va revenir vers toi et surtout parler de cette partie épargne, la tantine, hein, une sorte de tantine un peu inspirée entre guillemets, la tantine africaine. En tout cas, au début, on parlait de quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment ici essayer de creuser ça un peu dans cette émission. Comme ça, nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, voient un peu comment c'est, dans les côtés concrets, comment on peut épargner, on peut mettre de côté. Voilà, ici, Sabine, elle est prête déjà, yeah?
Oui, Sabine, Sabine, are you ready?
Are you ready, Sabine?
Oh, yes, I'm fine.
Nice to meet you, Sabine.
Okay, so I will take over. So we are speaking in English because we have an international guest here with us today. She's quite busy because in some minutes she will be starting with some activities. Maybe Sabine, can you tell us something about what is happening today in Berlin? How are you celebrating the CLT World Day and what is your role there also maybe?
Yes, so we are a young CLT in Berlin. We founded with 150 people last year, and we had our foundation party on World CLT Day last year, and this year we have an evening, we have a party to celebrate our first anniversary, so to say, and World CLT Day. But now we have a workshop, so we would like to on what we call Stiftungskomitee, it's like our membership body we want to start now. And we have maybe 30, 40 people to discuss what they want in the future.
Okay, that's great. That's super interesting, actually. And well, I guess then you will have a very, very, very busy afternoon and you will get to exchange a lot with different people and get to, like, maybe have some more people involved in the movement, I hope.
Yes, also to present, like, the not everybody who funded the CLT is super active, and that's, like, our way to come together once a year. So maybe 100 people, and we tell what we did. We talk about what we want to do, who are our new partners, what projects we hope to have in the future. And things like this.
Okay, that's great. Then we wish you all the luck with that. Here we are actually preparing to launch the program. We are having some events in the street. There is a lot of people. There are some social associative activities with the different associations of the neighborhood. And actually right now we are getting ready to inaugurate the project of Independence. So we are getting all together and we are going to have some speeches going on. So maybe I will leave you there and hopefully we will hear from you again and you will tell us how all the workshops went.
Thanks. And hey, have a good day and yeah. Bye-bye.
Okay. Thank you very much, Sabine. Bye bye.
Bye bye, Sabine. Voilà, c'était donc Sabine de CLTB Berlin. Voilà, tu sais, juste nous faire une petite synthèse de ce qu'a dit Sandrine pour nos anglophones qui nous ont suivis là tantôt.
Alors voilà, les mouvements CLT Berlin, c'est assez nouveau quand même. Ça fait un an que ça existe. Et du coup, cet après-midi, ils vont avoir quelques heures de workshop avec une trentaine, quarantaine de personnes. Et l'idée, c'est voilà, un peu partager ce qui se passe à Berlin autour du CLT, essayer de trouver des gens qui sont motivés à participer aussi. Et voilà, engager des nouveaux membres en même temps, et voilà, diffuser ces mouvements à Berlin pour pouvoir avoir plus d'énergie pour le développer et l'agrandir.
Il faudrait dire que voilà, on signale à nos auditeurs que voilà, on aurait souhaité l'avoir dans de bonnes conditions, mais sauf qu'elle n'est pas connectée, elle n'a pas internet. Nous on a prévu l'avoir via l'internet, mais elle fonctionne encore avec le, hein, avec les ondes, ce qui est bien aussi, les ondes traditionnelles, le téléphone normal, voilà. Donc à la dernière minute, on a trouvé une solution. Heureusement, Paola est très efficace sur terrain. Elle a proposé une solution et voilà, ça marche, oui. Voilà. Je propose de souffler un petit peu avec un peu de la rumba congolaise. Et comme ça, si vous avez un petit peu soif, moi je crois que j'ai soif, vous pouvez prendre quelque chose à boire, un petit café, un petit thé, un peu de l'eau et voilà. Donc Gérard Kanabassaou, tu nous proposes quelque chose avant de lancer. Tu nous dis c'est quoi? Qu'est-ce que tu as mis?
En fait, c'est une chanson, une de ces chansons fondatrices de la rumba congolaise. Donc ça s'appelle Cubana.
Cubana.
Cubana en fait.
Ok, ça joue déjà Cubana.
C'est de l'Afrique, Afrique en fiesta nationale.
Ok, on va écouter Cubana
écoute,
alors.
On écoute.
Sur 105.4 FM Radio Panique. Vous êtes aussi sur le 3W radiopublic.be. Oncle Kincho Microphone. Nous sommes donc en direct ici à la rue de l'Indépendance, ici à l'inauguration de ces bâtiments du CELTB, aussi dans ces cadres de 10 ans d'existence du CELTB. Donc voilà, nous saluons Monsieur Lechevin qui est là en face de nous et qui va sûrement inaugurer ces bâtiments dans quelques minutes et j'espère que nous l'aurons ici sur ce plateau qui va couper les rubans, voilà. Et c'est vraiment un plaisir d'être là et voilà, donc sans frontières ni barrières. nous laissons l'antenne. Voilà, nous allons passer cette inauguration en direct. Et donc, ça se passe maintenant.
Pardon, non, je vais dire un micro.
En attendant l'inauguration, je relance l'épargne avec Anne-Laure. Voilà, Anne-Laure va nous expliquer un petit peu comment faire communauté autour du logement et comment épargner, comment le membre du CLTB mette à côté pour pouvoir à la fin bénéficier d'un budget, d'une cagnotte pour accéder à ces logements. Ça se passe comment, Anne-Laure?
Alors, comme Gert avait expliqué, les logements coûtent moins cher hein, du Community Land Trust que d'autres logements parce que le Community Land Trust reste propriétaire du sol. Mais même s'ils sont moins chers, ils sont quand même chers. Enfin, c'est clair que pour avoir accès à un crédit hypothécaire, si les gens ont un peu d'argent dans leur poche ou sur un compte d'épargne, c'est beaucoup plus facile que s'ils n'ont pas du tout d'argent. Et donc, ce que nous, on propose, c'est une fois qu'on sait qu'un groupe va bientôt habiter, donc peut-être qu'il va habiter dans quelques années dans le projet, on leur propose de faire une épargne collective. Donc, chaque membre du groupe décide de verser, par exemple, 50 euros sur le même compte. Et c'est une motivation, parce que si tout le monde le fait, c'est un effet d'entraînement pour que le voisin de droite et le voisin de gauche arrivent à le faire aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait pendant plusieurs années, ça marchait bien, surtout pour les projets qui duraient 7 ans. Parce qu'en 7 ans, on a le temps d'épargner quand même pas mal d'argent si on est bien motivé et qu'on est discipliné pour le faire. Maintenant, on change un tout petit peu de système parce que... on essaye de faire en sorte que les gens n'attendent plus 7 ans avant d'arriver dans leur logement, mais qu'ils arrivent un peu plus tard dans le processus pour que 2 ans plus tard, maximum 3 ans plus tard, ils puissent déménager. Mais du coup, en 2 ans, évidemment, on n'a plus la même force pour épargner chaque mois. Alors, il faut essayer d'épargner même avant, quoi. Dès qu'on est membre au CLT, on encourage les gens à épargner, même si c'est 10 euros. 10 euros, ce n'est pas suffisant, évidemment, pour pouvoir acheter une maison, mais... que la démarche d'épargner vienne le plus tôt possible et puis quand c'est possible pour les gens d'épargner plus, ben surtout on les encourage à épargner plus quoi.
Et il y a l'âge aussi, l'âge quand même. Est-ce qu'à n'importe quel âge on peut commencer à épargner et puis acheter une maison? Possible.
Ah oui. Alors, on encourage évidemment à épargner le plus tôt possible. Ça, c'est sûr que si quelqu'un arrive à l'âge de 30 ans avec un petit fonds de réserve, ça sera beaucoup, beaucoup plus facile pour lui d'avoir accès à la propriété que si à l'âge de 30 ans, il n'a pas du tout de fonds de réserve. Donc oui, on l'encourage très fort à épargner dès que c'est possible. Et alors, une autre difficulté avec l'âge, c'est qu'à partir d'un certain âge, c'est difficile d'avoir accès au crédit hypothécaire parce que les banques ou les organismes de crédit sont très réticents à prêter de l'argent à quelqu'un qui a déjà, je veux dire, 50, 55 ans, 60 ans et qui ne va pas pouvoir rembourser suffisamment longtemps à leurs yeux un crédit hypothécaire. Et donc, oui, c'est plus facile de devenir propriétaire un peu plus jeune.
Et du coup, quelqu'un arrête à épargner.
Oui.
Qu'est-ce qui peut lui arriver? Donc, quelqu'un a des problèmes en cours de sa carrière, de son boulot, il ne peut plus épargner. Qu'est-ce qui va arriver s'il s'est déjà engagé pour acheter une maison?
Alors s'il s'est déjà engagé, alors à ce moment-là, on ne parle plus vraiment d'épargne. On parle plutôt de rembourser son crédit qui est déjà contracté. Si le crédit est déjà contracté, il n'a pas le choix, il doit le rembourser. Ça, ce n'est pas négociable. Il a un contrat souvent avec le fonds du logement. Mais là, il est obligé. Il doit rembourser chaque mois la somme qu'il s'est engagé à rembourser avec le fonds du logement.
Et l'idée de tantine, parce que ça a été évoqué à un moment, qu'il y avait une inspiration un petit peu de ces systèmes africains.
Oui.
Ça continue toujours. Et en quoi ça a été utile, ces systèmes de tantine africains?
Alors c'était utile pour des projets collectifs, ça a été une bonne idée pour des gros projets avec beaucoup de familles qui décidaient ensemble de faire un aménagement de jardin ou ensemble de faire un projet commun dans le bâtiment, etc. Alors l'argent collecté avec tout le monde servait à monter ce projet-là après 2-3 ans de collecte collective. Maintenant, on fait ça un peu moins parce que, comme je l'expliquais, les gens épargnent moins longtemps puisqu'ils restent moins longtemps dans le groupe projet, quoi. On essaie que ça aille plus vite.
En tout cas, merci beaucoup, Anne-Laure. Ça continue, hein, donc je ne te lâche pas. Voilà, Paula, tu vas nous faire le point. Nous recevons deux nouveaux invités sur notre plateau ici, sur notre vélo cargo, hein, qui n'a pas encore de nom, notre plateau vélo cargo. Nous recevons deux nouveaux invités. Qui sont ceux?
Alors, je vais rappeler, pour rappel, en fait, aujourd'hui aussi, en fait, la remise du prix World Habitat Award qu'on a reçu l'année passée, le CLTB l'a reçu. Et du coup, aujourd'hui, on a deux invités, on a plus que deux, mais là, sur le plateau, il y a deux représentants du World Habitat, c'est Pierre et David. On va leur laisser se présenter un peu, non?
Oui, on va laisser vous présenter. Qui commence, Pierre ou David? voilà. Hello, David.
Hello, I'm David Ireland and I'm Chief Executive of World Habitat.
C'est David Ireland qui est le directeur exécutif de World Habitat, qui est une structure basée en Angleterre qui remet le prix mondial de l'habitat tous les ans.
Voilà. Et c'est cette structure qui a remis le prix mondial de l'habitat au CLTB l'année passée, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Le prix a été... Le CLTB a été lauréat de l'année dernière. La décision a été prise l'année dernière. Et aujourd'hui, le trophée va être remis en main propre ici à Molenbeek, au CLTB et aux résidents. Dans une heure, je crois, ou dans une heure et demie.
Nous aurons ce privilège d'assister à cette remise en main propre du prix qu'a gagné le CLTB, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ah, il n'a pas compris. Non.
Ce sera à Belmondo à 18h.
Ah, d'accord. Alors, moi, je voulais savoir un peu, ça se passe comment une sélection, pour sélectionner un projet qui doit bénéficier à un prix, sur quels critères il se base pour bénéficier
à un prix? So we have 200 submissions each year from projects all over the world. And what we're looking for are projects which are innovative and have got the potential to solve big housing problems and can also be transferred to other people around the world. And that is what we saw here when we came to see CLTB in Brussels.
Tous les ans, il y a environ 200 projets qui postulent. Tout le monde peut postuler et c'est des projets du monde entier qui postulent pour cette compétition qui s'appelle le Prix Mondial de l'Habitat. Et l'objectif, les critères, ce soit des projets qui soient liés au logement, l'habitat au sens large, qui soient innovants, transformateurs et qui puissent inspirer d'autres projets dans le monde. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui ici avec le CLTB. C'est un projet qui a été inspiré de CLT qui viennent d'ailleurs et inspire aujourd'hui d'autres CLT en Europe.
Il a suivi un peu l'évolution du CLTB dès le début, il y a 10 ans. Il a vu un peu le CLTB naître.
Have you seen the innovations or the evolution of the CLTB over the last 10 years since they were born?
So the CLT movement has moved on fantastically over the last 10 years. And this is the first CLT in Europe. We saw it start 10 years ago and it has grown fantastically. And what's more, it has been the inspiration for lots of other CLTs in Europe. There are now 200 CLTs around Europe and it started here in Brussels.
Wow. Donc oui, je laisse traduire.
Le CLTB est le premier CLT à avoir été réalisé en Europe continentale. Il y en a en Angleterre et dans le pays de Galles. Mais c'est le premier sur le continent européen et maintenant il a inspiré beaucoup d'autres projets à travers les actions de coopération qu'ils ont menées. Et il y a environ 200 CLT aujourd'hui en Europe qui sont dans différentes phases, certains déjà construits, habités.
Qu'est-ce qu'il a remarqué ici à Bruxelles de particulier, de spécifique qui caractérise CLT?
What is specific to the CLT in Brussels compared with others that we know?
So what they've done fantastically in Brussels is been able to get communities to stay in the city centre. So what experiencing here is what people are experiencing in cities around the world is communities being driven out by high house prices and gentrification. Mm-hmm. But what we're seeing here is reusing old buildings, being able to keep communities here where they belong in the centre of Brussels.
Mm-hmm.
Quelque chose de remarquable du CLT ici, c'est qu'il permet à des personnes de rester dans la centralité, dans les quartiers centraux de la ville de Bruxelles, dans les communes centrales, en évitant le déplacement qui est engendré par l'augmentation des prix et qui génère dans beaucoup de villes dans le monde un déplacement des personnes avec les plus faibles ressources vers les périphéries et un processus qu'on appelle la gentrification ou l'embourgeoisement des quartiers centraux. Et donc le CLTB permet d'éviter ça en ayant du logement qui sera pour toujours abordable dans les communes centrales de la ville de Bruxelles.
Chouette. En tout cas, je me mets à la place de monsieur, madame X qui nous écoute maintenant, hein, monsieur, madame Lambda qui nous écoute. Une question de curiosité, les prix gagnés par CLTB, ça consiste en quoi concrètement?
Concretely, what is the price about? What does the CLTB receive?
Combien de millions?
How many millions?
So the CLTB receives a trophy which we're going to present in a few hours here in Brussels. But it also does receive a prize money. There is a prize of £10,000. But also we work with CLTB over a period of a year to help them transfer their model to other places.
Okay.
Alors, les lauréats, le CLTB cette année et les autres lauréats tous les ans reçoivent un prix physique, donc c'est une coupe qui va être décerné dans 2 heures au CLTB. Ils reçoivent également 10 000 livres sterling, donc ça fait à peu près 12 000 euros en argent qu'ils peuvent utiliser pour leur projet. Et puis un accompagnement pendant un an de la part de World Habitat qui consiste à chercher la manière de diffuser le projet pour que plus de gens puissent en entendre parler, faire des connexions avec d'autres acteurs qui peuvent être importants et générer la diffusion pour que plus de gens connaissent ces méthodes qui sont transformatrices et qui gagneraient beaucoup à être plus connues et plus soutenues.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence ici sur ce plateau, en direct de Radio Panique 105.4 FM, en direct de Radio Public 3fw.be. Je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot avant de vous quitter, un petit message aux Bruxellois, Bruxelloises qui vous écoutent en ce moment.
Just thank you very much for inviting me here, and it's been fantastic to actually see the community here and see the fantastic buildings that have been built, because it's a real credit to what has happened in Brussels.
Okay, nice.
Merci beaucoup et félicitations pour ce qu'on a pu avoir l'occasion de voir ces derniers jours, de visiter ces projets. C'est vraiment incroyable ce qui est fait par le CLTB ici, donc félicitations. Et j'ajouterai un bon anniversaire au CLTB.
Oh, wow.
Et une très bon World CLT Day. Donc aujourd'hui, c'est le jour international des CLT, donc à tous les CLT qui nous écoutent dans le monde, un très bon World CLT Day.
On peut applaudir, hein?
À toutes et à tous.
On peut applaudir. Merci, merci, merci. Merci, merci. Voilà, nous passons maintenant à l'inauguration de l'immeuble. Voilà, comme je l'avais annoncé ici, chers auditeurs, auditrices, nous allons avoir André un peu plus tard. Mais nous passons. Oui.
Je crois à l'inauguration.
À l'inauguration.
Donc,
Gérard, comment tu décris cet immeuble en attendant que les chevets prennent parole?
Je vais vous surprendre peut-être. Et moi, j'ai toujours eu une comparaison avec mon pays d'origine.
Oui.
Cet immeuble, il ressemble étrangement à mon internat, quoi.
À ton internat?
Ah, oui.
Wow.
Ça ressemble.
Et ton internat était où?
C'est dans le Bas-Congo.
Dans le Bas-Congo.
On va connaître plus précisément à Tumba.
Oui.
Ça ressemble étrangement à un des bâtiments de cette école-là. Donc voilà,
Gérard,
ça me rappelle beaucoup.
Gérard, nous sommes à Molenbeek. Nous sommes à Molenbeek, un bâtiment de Molenbeek qui ressemble à un bâtiment d'un village au Congo.
Congo, oui, oui, il y a plein de villages qui ressemblent à des structures en Belgique. Des structures bâties par des Belges au Congo, ça existe.
Donc c'était des architectes belges qui ont, bâti là-bas.
C'est bâti par des Belges. Donc s'il n'y a
et
pas
donc,
de. C'est pas. C'est pas étrange, c'est pas. Ça arrive.
Décris-nous un peu, oui, ça ressemble à ton internat, oui. C'est comment? Les fenêtres sont larges?
Oui, c'est un bâtiment comme beaucoup de bâtiments à Molenbeek ici, bâti avec ces fameuses briques rouges.
C'est beau, hein?
Oui, rouges, c'est très beau, avec deux entrées, avec une entrée principale, et puis je vois de l'autre côté, je crois, une entrée des garages, je crois. De l'autre côté, je vois pas très bien et.
Non,
c'est beau.
C'est au numéro 15 de la rue de l'Indépendance. C'est pas très loin de la place de la porte de Ninove. Hein.
Oui, d'abord il y a des photos. Il y a des photos qui montrent bien,
photo.
À l'intérieur.
Ouais.
Que je pense que c'est André qui devait les expliquer ces photos-là, parce que moi je le vois de loin.
Ah oui, si on peut avoir André.
Monsieur André, s'il vous plaît, vous pouvez prendre le micro. Je vois des photos.
Oui.
Oui, on va y aller, on va aller. On peut couper à tout moment. Je vois des photos. Que représentent ces photos-là qui sont devant le bâtiment? Je vous signale que nous sommes avec M. André Lupuska qui doit d'abord se présenter. Qui êtes-vous finalement?
Oui, moi je m'appelle André. Je suis chargé de projet d'insertion par le logement à l'ESBEL La Rue. Et en tant que tel, l'ESBEL La Rue a travaillé en partenariat avec, l'ESBEL CELTB pour le projet CELT Indépendance Rensfort que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Donc dans ce cadre-là, il y a une série d'accompagnement que l'ESBEL La Rue assume, notamment le bâtiment ici du projet CELTB. C'est un bâtiment haute performance énergétique.
Oui.
Alors, ce qui fait que nos conseillers en rénovation ont fait des accompagnements en matière de gestion, comment gérer un bâtiment haute performance énergétique. Ouais. Et il y a aussi des accompagnements vivre ensemble. C'est ce que moi, je m'occupe des accompagnements vie commune, donc le vivre ensemble au sein d'une communauté. Parce qu'habiter en CLT, c'est habiter en communauté. C'est un système d'habitat communautaire. Voilà.
Oui, mais voilà. On voit les détails aujourd'hui.
Désolé de couper, puisque nous allons passer à l'inauguration.
Oui.
Tout est prêt là, voilà. Je vais juste laisser le micro à la coordinatrice qui va essayer, voilà, qui va lancer l'inauguration.
Allô, bonjour. Voilà, oui, on va passer à l'inauguration. Là, on se rassemble devant le bâtiment d'Indépendance Renfort où 21 familles sont déménagées l'année passée et c'est aujourd'hui qu'on inaugure les logements. Du coup, voilà, il y a ma collègue Sophie qui va lancer tout ça. On commence à se rassembler petit à petit, on appelle les habitants à venir et voilà. Alors...
Ok, allô, bonjour tout le monde, goeiedag allemaal. Le moment qu'on attend depuis longtemps arrive, on va enfin inaugurer officiellement ce très beau bâtiment de 21 logements. Donc je vous invite tous à venir plus près. Ik nodig jullie allemaal uit om een beetje dichter te komen. We gaan officieel het gebouw inhuldigen. Zet jullie maar allemaal in een grote cirkel rond ons. Mettez-vous dans un grand cercle autour de nous. Donc, moi je m'appelle Sophie, je travaille au Community Land Trust. J'ai accompagné le chantier de ce bâtiment et aussi ce groupe. Et je vais ici être votre maître de cérémonie pour les quelques discours qu'on va faire maintenant. Donc, ik ga nu het woord geven aan Pierre Denis, die de voorzitter is van de Community Land Trust. Pierre Denis was ook een van de drijvende krachten bij het ontstaan van de CLT. Je vais donner maintenant la parole à Pierre Denis, notre président du Community Land Trust.
Merci Sophie, bonjour à tous, monsieur l'échevin, messieurs les échevins, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom du CLTB pour l'inauguration de ce sixième projet, alors qu'aujourd'hui aussi nous fêtons les 10 ans d'existence du CLTB. Ainsi, avec ce projet, 104 familles habitent un logement sur un terrain appartenant au CLTB, dont 78 en tant que propriétaire.
Ouais.
Plus de 70 logements sont encore en développement au CLTB, dont 8 seront encore occupés cette année à la rue Navet. Comme vous avez pu ou vous pourrez le voir en visitant ce projet, il s'agit de la rénovation de 2 bâtiments à caractère industriel. Ils ont été transformés en 21 logements spacieux et lumineux. Ces 21 logements sont répartis sur les 2 immeubles et sont reliés par un ensemble de toitures verdurisées en intérieur d'îlots. Alors un peu d'histoire, c'est en 2018 qu'ont débuté les négociations avec l'entreprise Gillion. À ce moment-là, l'entreprise terminait la rénovation du Lidl, ou la construction du Lidl, qui se trouve au rez-de-chaussée, et attendait la délivrance d'un permis d'urbanisme pour la réalisation des logements. En décembre 2019, un compromis est signé avec Lidl, Gillion et le CLTB, et l'acte est passé en février 2020. Au printemps 2020, un groupe de 21 candidats propriétaires est constitué et son accompagnement démarre en pleine crise Covid. C'est en mars 2021 que le chantier prend fin, avec quelques mois de retard, suite aux conséquences de la crise sanitaire. En fin d'avril 2021 à février 2022, les familles vont emménager, mais les actes de vente ne seront passés qu'en décembre 2021 afin que les familles puissent bénéficier du taux de TVA favorable de 6%. Ce beau projet de promotion a été développé et construit par les entreprises Gillion. Un partenariat avec la SBL Larue a été mis en place pour l'accompagnement individuel des propriétaires et pour l'accompagnement du groupe des habitants. Une très belle dynamique de groupe s'est mise en place dès le début dans une ambiance conviviale. Les habitantes et les habitants se sont investis dans différents groupes de travail pour se former au suivi énergie de leur logement, découvrir le quartier, planifier l'aménagement des locaux techniques, se former sur les aspects de la copropriété et de la gestion technique d'un immeuble. A noter aussi que deux ménages qui se sont installés dans ce projet ont muté d'un autre CLT, d'un autre projet ici à deux pas, et donc ils sont venus ici s'installer dans un logement plus spacieux, le leur étant devenu trop petit. La vente de leur logement dans les conditions CLT leur a permis l'achat d'un grand logement ici à Indépendance. Alors, au nom du CLTB, nous tenons aujourd'hui particulièrement à remercier la région bruxelloise pour son soutien financier indispensable, la commune de Molenbeek qui, via une clause particulière en matière de charges d'urbanisme, a permis de réduire les coûts des logements, l'entreprise Gillion Développement et Gillion Construct pour la réalisation de ce projet, la SBL Larue qui va accompagner ce projet, toute l'équipe du CLT qui s'est investie pendant plusieurs années pour arriver à ce beau résultat, et bien entendu, tous les habitants qui vont habiter ces appartements à qui nous souhaitons de vivre le plus heureux possible. Voilà.
Danke, Pierre.